Merci Salvador, merci au département de sociologie, merci aussi à Sarah, merci à chacune et chacun de vous donc d'être venu cheminer un moment avec moi cet après-midi. Je vais plutôt parler des conduites à risque de nos jeunes, hein. Je vais faire une anthropologie du mal de vivre adolescent et en essayant de comprendre donc d'un point de vue anthropologique pourquoi un bon nombre de nos jeunes se mettent délibérément en danger. Se mettent donc en toute connaissance de cause en danger. Voilà. C'est l'une des déclinaisons possibles de la question du risque. Demain matin, je parlerai de manière plus généraliste, en quelque sorte, de cette question du risque. Mais là, j'aborde un aspect particulier donc, qui soulève évidemment énormément de questions éthiques, de questions morales, de questions de lien social dans le monde d'aujourd'hui où on a de plus en plus de mal à se reconnaître. Alors d'abord, il faudrait que je dise quelques mots, mais je ne le ferai pas vraiment, mais je vous rappelle quand même que la notion d'adolescence et de jeunesse sont des notions extrêmement récentes dans l'histoire de nos sociétés. Il y a bon nombre de sociétés humaines qui ne fonctionnent pas avec ces notions-là. Un historien comme Philippe Ariès date l'émergence de la jeunesse dans le milieu du XVIIe siècle, dans les milieux bourgeois, et dans les milieux de la noblesse, hein, beaucoup moins dans le milieu rural, puisqu'il faudra très très longtemps pour que d'ailleurs l'ensemble de nos jeunes soient scolarisés. Mais ce qui caractérise l'adolescence ou la jeunesse, c'est ce moment de suspension, ce moment de suspension où le jeune n'est pas encore dans le monde du travail, mais n'est plus tout à fait un enfant. Et donc évidemment, la scolarisation joue en ce sens un rôle majeur en suspendant le jeune de manière... soit très tangible entre deux univers, mais il faudra très longtemps donc, pour que cette notion de jeunesse quand même se diffuse, puisque le premier grand texte sur la culture de la jeunesse vient des États-Unis, c'est Merton, si ma mémoire est bonne, en 45, si ma mémoire est bonne aussi, où Merton donc, fait référence au fait qu'une partie de la population américaine fonctionne sur des valeurs qui sont très différentes de celles de leurs parents. Chez nous, en France, c'est l'immense Edgar Morin, notre éternel Edgar Morin, qui, dans les années 60, fait des très belles analyses sur l'émergence d'une culture jeune. Et donc, on peut dire que la notion d'adolescence se cristallise vraiment dans ces années 60-70. Aujourd'hui, donc, on voit imploser sous nos yeux cette notion avec l'émergence des pré-adolescents et des post-adolescents. Quand je dis aujourd'hui, ça remonte quand même à une quinzaine, une vingtaine d'années. Les préadolescents, ce sont par exemple ces filles, ces adolescentes qui vivent des grossesses précoces, qui ont une sexualité parfois très, très fournie. Du côté des garçons, c'est davantage la délinquance, la violence, avec une accumulation de faits et de méfaits, en quelque sorte. Mais des jeunes qui veulent grandir plus vite, qui veulent griller les étapes, hein, vers l'âge d'homme ou vers l'âge de femme. Et puis à l'opposé, vous avez les Tanguis, donc du nom du film d'Étienne Châtillies, hein, au début des années 80, mais qui touche là davantage les milieux de classe moyenne ou privilégiés. Des jeunes donc qui refusent de grandir, qui veulent vivre une éternelle adolescence. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'évidemment, cette notion de... Enfin, c'est pas vraiment des Tanguis, mais énormément de jeunes sont contraints de vivre une solidarité familiale, des jeunes de milieux populaires notamment, parce que nous vivons dans des sociétés où il devient de plus en plus difficile donc, de s'intégrer, de payer son loyer. Le coût du travail n'est plus du tout ce qu'il était autrefois. Et donc beaucoup de jeunes sont contraints à cette solidarité familiale et par exemple à vivre avec leurs copains ou leurs copines dans la chambre où ils ont grandi enfants. Voilà, ce qui modifie un peu aussi le paysage de la jeunesse d'aujourd'hui. Bon, mais ce n'est pas vraiment mon thème, mais c'était pour vous rappeler que c'est une notion, donc la jeunesse ou adolescence sont des notions très sociologiques aussi, très historiques, très culturelles, et qui peuvent ne pas exister dans certaines sociétés. On passe directement de l'enfance à l'âge d'homme ou de femme. Margaret Mead ou d'autres ont décrit des sociétés de cet ordre, où il y avait un passage insensible d'un âge à un autre. Et puis d'autres, d'innombrables ethnologues ou anthropologues ont décrit des rites de passage qui font l'économie de l'adolescence. On passe, donc, on était un enfant avant le rite et on devient un homme ou une femme après le rite. Bon, voilà. Dans nos sociétés, en revanche, vous voyez, la notion d'adolescence ou de jeunesse sont des notions qui durent, qui peuvent durer très 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 longtemps, même voire une quinzaine, une vingtaine d'années pour un certain nombre d'entre eux. Alors, c'est pas vraiment l'adolescence ou la jeunesse qui nous intéresse aujourd'hui, puisque je vais vous parler uniquement des jeunes qui sont mal dans leur peau. Donc ne me reprochez pas après d'avoir une position pessimiste ou autre. J'analyse vraiment le cœur de la souffrance et je ne veux pas vous dire que tout va bien, puisque mon objet d'analyse, ce sont vraiment les conduites à risque. Et quand on est bien dans sa peau, on n'a pas envie de mettre sa vie en danger de manière, enfin, en tous les cas, dans ce genre de conduite, de comportement que je décrirai tout à l'heure. Mais dans la société française, on évalue aujourd'hui à 1 sur 5 les jeunes qui sont en pleine détresse. Ce sont des chiffres de l'INSERM. C'est un diagnostic, à mes yeux, terrifiant d'une société qui a de plus en plus de mal à intégrer sa jeunesse. Un jeune sur cinq, donc, est en pleine dérive. Ça veut dire que si vous voyez cinq jeunes sur les parvis de la cathédrale tout à l'heure, vous pouvez penser qu'il y en a un des cinq qui bat de l'aile et qui peut mourir, qui peut en tous les cas altérer profondément son existence. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de France, d'ailleurs, dans l'histoire des sociétés occidentales. Donc à peu près un jeune sur cinq qui est en pleine dérive. Alors que sont ces conduites à risque dont je vais vous parler plus longuement? Moi, je vois quatre axes, donc les conduites à risque comme une cristallisation de ces quatre axes. D'abord, ce sont des comportements qui mettent en danger l'existence du jeune. Donc il peut mourir. Il peut mourir de sa toxicomanie, de la vitesse sur les routes, de troubles alimentaires, d'alcoolisation, d'une tentative de suicide qui malheureusement aboutit. Je dis comme ça parce que pour moi, il n'y a pas de tentative de suicide à l'adolescence. Il n'y a que des tentatives de vivre. Hein, donc... Sur le plan de l'analyse, évidemment, c'est renverser complètement les choses. Quand la santé publique dit tentative de suicide, moi je vois tentative de vivre. Et cette modification de l'angle d'approche sur le plan éthique, sur le plan de la prévention, est évidemment considérable. Mais en tous les cas, le jeune peut mourir de ces mises en danger délibérées qu'il opère à travers les conduites à risque. En outre, elles mettent également en péril la santé du jeune. Par exemple, à travers une sexualité avec des partenaires de hasard, donc sans préservatif, sans contrôle et autres. Ça peut être aussi dans le contexte de la prostitution liée à la toxicomanie, mais ça peut être aussi la vitesse sur les routes qui amène, vous le savez très bien, malheureusement, à d'innombrables accidents ou des jeunes qui ramènent leurs copains après une soirée, se plantent contre un arbre et tuent un, deux, trois, quatre parfois. Rappelez-vous, il y a deux ou trois ans, pendant l'été, un jeune a tué 10 de ses copains comme ça, qu'il avait enfourné dans... La fourgonnette de son père, sans lui demander l'autorisation d'ailleurs de sortir la fourgonnette. Ce jeune qui avait bien bu, mais qui voulait montrer qu'il était un caïd, donc a conduit comme un fou. Et puis finalement, le résultat était cet accident tragique. Mais c'est vraiment l'un des éléments qui revient inlassablement dans les faits divers, particulièrement dans certaines régions, mais c'est quand même un phénomène assez national. Donc les accidents de la route qui sont provoqués par l'alcoolisation et par le fait aussi d'être en groupe avec l'effet d'entraînement que ça induit. Puis chez les garçons, la volonté de montrer leur virilité au volant, montrer qu'ils tiennent l'alcool, etc., qui a souvent des conséquences absolument tragiques. Vous savez d'ailleurs, anecdotiquement au passage, qu'un jeune qui est tout seul à son volant a moins d'accidents que quand il est accompagné. Ce qui montre qu'il y a cette volonté de se la montrer, hein, quand on est chez beaucoup de garçons qui accompagnent des copains ou des copines, mais avec des accidents à la clé, parce qu'ils n'ont absolument pas la maîtrise qu'ils fantasment de leur voiture. Ils n'ont pas l'expérience, de toute façon, de la conduite automobile. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc c'est une santé qui peut être altérée par des accidents, par des handicaps, par des problèmes de maladies chroniques. Un troisième point pour moi, sans hiérarchisation aucune, c'est le fait qu'ils peuvent également perdre une part de l'estime de soi. Par exemple, des jeunes qui, pour payer leur dose, se prostituent ou acceptent de vivre des humiliations devant leur dealer, mais qui un jour ou l'autre peuvent regretter ce qu'ils ont fait. Et puis c'est aussi la question de la réputation. Alors, un point, moi, qui m'a toujours touché, ému, c'est que beaucoup de filles ou de garçons qui ont été victimes d'abus sexuels ou de viols ont tendance à se considérer comme souillés, pourris, dégueulasses, de la merde, etc. Et ils vont se donner à tout le monde, dans une espèce de volonté de maîtrise du traumatisme initial. Le problème, évidemment, c'est que peut-être un jour, cette fille ou ce garçon entrera dans une relation amoureuse et on risque fort de dire à son amoureux ou son amoureuse, tu sais, tout le monde l'a connu, ta copine, etc. Donc là, c'est la manière dont la réputation peut se refermer sur un piège chez un certain nombre de personnes qui n'ont pas été suffisamment attentifs à ça. Un peu comme s'il y avait un interdit de changer si on ne change pas de lieu. La stratégie, c'est de changer de lieu et puis d'arriver dans un endroit où nul ne vous connaît et là où vous pouvez vous reconstruire complètement. Mais quand on n'a pas les moyens, évidemment, on reste enfermé dans une réputation fâcheuse qui va orienter toute l'existence tout entière. Et un point aussi qu'il faut que nous ayons toujours en tête, nous autres sociologues, c'est qu'énormément de personnes prostituées sont des hommes ou des femmes qui ont vécu des expériences d'abus sexuels ou de viols dans leur enfance. C'est-à-dire qui ont été pris dans cette espèce d'enchaînement sans fin, sans doute aussi de ne jamais rencontrer d'adultes à qui ils pouvaient dire ce qu'ils avaient vécu, le drame qu'ils avaient vécu. Et donc ce sentiment de souillure qui les a amenés à multiplier les relations sexuelles, souvent sans aucun plaisir, mais qui s'est renfermé sur eux comme un véritable destin, et qui fait que donc, dans bon nombre de cas, comme vous le voyez, la prostitution n'est absolument pas choisie, entre guillemets, comme un certain nombre de nos collègues très mondains le fantasme, et qui voient la prostitution comme un choix absolument permanent, etc. Non, il y a aussi des fractures de vie qui ont pas mal orienté bon nombre de ces femmes ou de ces hommes. En tous les cas, je veux simplement dire là que, d'une part, la société a failli, les adultes ont failli, les systèmes de prévention également ont failli, mais aussi, pour nous, sociologues, il y a beaucoup de nuances. Donc, dans la prostitution, il ne faut pas avoir un seul regard. Il n'y a pas d'univocité dans ce domaine. Et puis, le quatrième point, c'est la difficulté d'intégration sociale pour ces jeunes qui ont traversé le mal de vivre, puisque les conduites à risque, par exemple, mais le mal de vivre, de toute façon, entraîne un désinvestissement de l'école. Quand on est mal dans sa peau, c'est difficile d'écouter un prof qui vous parle de choses qui n'ont rien à voir avec votre vie quotidienne, avec les maltraitances que vous vivez dans votre famille, avec l'absence de votre père que vous ruminez tous les jours, ou une mère qui ne vous aime pas, etc. Et donc, il y a un abîme entre l'école, le discours de l'école, et puis la vie quotidienne du jeune. Et donc beaucoup d'entre eux ne sont absolument indisponibles pour écouter l'enseignant. Donc ils peuvent être présents physiquement, mais ailleurs, dans leur univers intérieur, ou alors souvent d'ailleurs, ils font non plus l'école buissonnière, il n'y a plus beaucoup de buissons dans nos villes, mais en tous les cas, ils ne vont pas à l'école, ils vont ailleurs, où ils trouvent... Mais là, le prix à payer dans nos sociétés de compétition, c'est de ne pas avoir de diplôme. Et donc, un jour, d'être enfermés dans un destin social où ils n'auront pas beaucoup le choix de leur métier, ils seront contraints finalement au métier subalterne, mal payé, qui alimentera aussi la mésestime d'eux-mêmes, comme si les souffrances de l'enfance allaient retentir également sur les souffrances de leur âge d'homme ou de leur âge de femme, dans un monde qui n'en finit plus, de l'amertume, du regret, etc. Donc voilà, en gros, la notion de conduite à risque, vous le voyez, c'est d'ailleurs une notion de la santé publique. Ce n'est pas une notion du jeune. Hein. Quand vous dites à un jeune, tu prends des risques, etc., il vous regarde avec des yeux ronds, parce que pour lui, il n'a jamais pensé à ça. Ce n'est pas du tout sa problématique. Donc la notion de conduite à risque, elle est projetée d'en haut sur des jeunes qui sont dans un autre monde de signification et de sens. D'un autre côté, c'est quand même un mot qui nous permet de nous comprendre quand on organise des colloques, quand on organise des conférences, des réunions, etc. Bon, mais c'est un mot un peu maladroit, entre guillemets, d'une certaine manière, parce qu'il ne rend pas justice aux représentations qui sont celles de nos jeunes. Donc, d'un point de vue anthropologique, ce qui est passionnant, mais pour nous, pas pour eux évidemment, pour la compréhension qu'on peut essayer d'avoir de ces conduites à risque, c'est qu'elles mettent en jeu le risque, la douleur, la blessure, la privation, le choc des sensations, comme manière de se construire. Hein. Le risque, donc le risque de mourir, la douleur, par exemple, ce sont les scarifications, les attaques au corps, la privation, c'est l'anorexie, le choc des sensations, c'est l'alcoolisation, notamment l'alcoolisation extrême, c'est aussi la toxicomanie, c'est la vitesse sur les routes, etc. Comme si vivre ne suffisait pas, il faut se sentir vivre, il faut se projeter contre le monde, il faut sentir violemment le monde contre soi pour se dire « j'existe ». Alors que les autres jeunes, évidemment, j'espère que ça a été votre cas, mais les autres jeunes sont dans l'évidence de vivre et ne se posent pas ces questions-là, évidemment. Mais par contre, quand on est mal dans sa peau, on se cogne en permanence contre le monde pour essayer de comprendre qui on est dans un monde qui nous échappe complètement. Et donc, en ce sens, évidemment, la douleur est un rappel de la subjectivité, la blessure auto-infligée, la privation, etc. Donc, dans cet univers de la souffrance adolescente, le corps devient une sorte d'accroche au monde. Hein, le jeune est dans un abîme et il s'accroche désespérément à son corps pour ne pas disparaître complètement. Le corps, donc, est une accroche au monde. On pourrait dire, en faisant un clin d'œil à la psychanalyse, notamment Winnicott, surtout Winnicott, que le corps est un objet transitionnel, mais paradoxal. Parce que là, je ne fais pas du tout un collage de la psychanalyse dans la sociologie ou l'anthropologie. J'ai ma définition de l'objet transitionnel. Donc pour Winnicott, la notion d'objet transitionnel, c'est le doudou, c'est la poupée, c'est le morceau de tissu qui permet à l'enfant d'apprivoiser l'absence de sa mère. Oui, on est quand même dans l'anthropologie. On est dans des formes de ritualisation intime, notamment donc, du fait que la mère n'est pas là et que c'est un peu inquiétant. Et donc le jeune va essayer, l'enfant va manipuler le monde qu'il a sous la main pour essayer d'exorciser la peur qu'il a. Donc le doudou est un objet de rassurance en quelque sorte. Hein. Quand je dis le corps est un objet transitionnel dans l'univers de l'adolescence meurtrie, je veux dire par là que le jeune utilise son corps comme un objet transitionnel, mais de façon brutale, violente. C'est-à-dire qu'il va jeter son corps contre le monde, il va le ramener à lui, il va prendre plein de coups, il va ramener son corps à lui, il va à nouveau le jeter, je métaphorise évidemment, il va jeter le monde contre son corps contre le monde, il va à nouveau le ramener à lui, et comme ça, il avance dans le temps, et peut-être un jour, trouvera-t-il une réponse, une solution à ses souffrances. C'est le même Winnicott d'ailleurs qui disait « le temps est le premier remède des souffrances adolescentes ». Donc, ce qui est très important, notamment en matière de prévention, c'est de gagner du temps, d'essayer à chaque fois de relancer le temps devant le jeune pour ne pas qu'il se sente écrasé par le présent. Et cette image que j'ai empruntée tout à l'heure du corps qu'on jette et qu'on ramène, c'est un peu d'ailleurs un clin d'œil au jeu de la bobine de Freud, hein, mais que je détourne là aussi un peu. Mais rappelez-vous, chez Freud, donc c'est l'enfant qui exorcise l'absence de sa mère en jetant la bobine, une bobine qui est reliée à un morceau de ficelle, et quand il jette la bobine, en allemand, il dit « elle est partie », il retire la bobine et il dit « elle est là, elle est partie, elle est là ». Vous voyez cette forme de ritualisation, d'exorcisme, c'est un peu comme ça que je vois le corps dans les conduites à risque de nos jeunes, donc comme une espèce de bobine qu'on jette violemment contre le monde, mais qu'on ramène, et puis mais quand même, au fil du temps, on arrive à peu près à s'en sortir. Alors, un point qui me paraît très important et aussi pour briser un certain nombre d'idées reçues que vous pouvez avoir, hein, mais que beaucoup de gens ont, et ça me sidère un peu, parce que souvent, quand je fais des interventions sur le sujet, on me dit, mais vous savez, le mal de vivre de la jeunesse, on connaît ça de toute éternité. Il y a toujours quelqu'un pour sortir la phrase d'un philosophe grec qui dit, ah, les jeunes sont différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient autrefois, ce qui n'a strictement aucun rapport avec les conduites à risque, comme vous le voyez, simplement plutôt des petites tensions de génération et autres là, qui sont bien banales dans les sociétés humaines. Non, on peut vraiment dire que la souffrance adolescente est vraiment une notion extrêmement récente dans l'histoire de nos sociétés, et c'est très facile de le démontrer avec les chiffres de la santé publique. Ce qui est durable, ce qui vient de très très loin dans notre histoire, sont les formes de violence, de délinquance, de violence sexuelle et autres. Ça, de toute éternité, les jeunes générations ont été immergées dans ce genre de comportement que les historiens décrivent Bon, il y a plein, plusieurs, plusieurs histoires de la violence, l'histoire du viol de Vigarello, etc. Bon, donc, ça, c'est classique. Ce qui est classique aussi dans nos sociétés, c'est l'alcoolisation. Hein, les fêtes de village où on buvait, c'est, d'une certaine manière, c'est Rabelais, et tout, mais c'est l'amont et l'aval de Rabelais. C'est le fait qu'on vit dans une société où l'alcool a toujours joué un rôle très important, et particulièrement pour la jeunesse. Donc ça, ce sont des choses durables. Là, il n'y a pas de changement. Par contre, ce qui fait le lot quotidien des travailleurs sociaux aujourd'hui, c'est souvent extraordinairement récent. Les troubles alimentaires, par exemple, qui vous paraissent sans doute d'une banalité déconcertante, eh bien, les troubles alimentaires n'existent pas dans la jeunesse avant le milieu des années 70. Hein, elles apparaissent aux États-Unis dans le milieu des années 70. Elles surprennent complètement les cliniciens de l'époque. Hein, je cite souvent Hilde Bruche, qui est l'une des grandes cliniciennes des troubles alimentaires, une femme qui a énormément travaillé sur l'alimentation de manière générale, de façon très anthropologique, très passionnante également. Et Hilde Bruche, qui était psychologue sur la côte est des États-Unis, dans l'une des grandes universités de la Ivy League, c'est-à-dire les universités où les Américains mettent, où les plus riches familles américaines mettent leurs enfants, donc ça coûte absolument une fortune de s'inscrire là-bas. Et Hilde Bruche dit, dans le milieu des années 70, nous autres cliniciens, cliniciennes, pour la première fois, nous avons vu des parents, souvent très connus, très riches, qui poussaient devant eux une ado qui ne voulait absolument pas rentrer, et qui nous disaient, on ne sait plus quoi faire avec notre fille, on ne peut plus la contrôler, elle ne mange plus, regardez comme elle est maigre, etc. Et Hilde Bruche a cette formule absolument extraordinaire pour le monde d'aujourd'hui. Elle dit, nous autres cliniciens, nous n'avions jamais vu cela. À la fin des années 70, l'anorexie était devenue une épidémie aux États-Unis. Donc là, vous avez aussi un trait particulier du mal de vivre adolescent, c'est la contagion des symptômes, hein, qu'on va voir de toute façon dans toutes les conduites à risque. C'est comment finalement un certain nombre d'adolescents intuitivement trouvent des solutions, entre guillemets, à leur mal de vivre. Cette solution va se diffuser de façon fulgurante dans l'ensemble des sociétés, surtout dans le contexte de la mondialisation. On a vu, par exemple, dans la radicalisation, en l'espace de quelques mois, il y a eu des milliers de jeunes qui se sont radicalisés. Là, pour l'anorexie, ça a pris quelques années, parce que c'était davantage plus artisanal dans le contexte des années 70, si je peux le dire ainsi. Mais il y a ce phénomène de contagion du sens, hein, contagion également d'une sorte de mode d'emploi pour tenir devant la souffrance qui étreint le jeune. Donc l'anorexie est extrêmement récente dans l'histoire de nos sociétés, elle va sauter l'Atlantique, elle va arriver tout doucement en France, mais pour qu'on commence à en parler, et au-delà donc de la boulimie ou des vomissements, il faut attendre le début des années 90 pour que ça devienne vraiment un phénomène qui trouble de plus en plus, qui mobilise les psychiatres, les pédopsychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux, etc. Et aujourd'hui, on peut dire, il n'y a sans doute pas des masses de classe dans les lycées où on ne rencontrerait pas une ou deux ou trois anorexiques. Voilà. Donc, les troubles alimentaires émergent dans les années 70. Mais de même, la toxicomanie. C'est-à-dire avant les années 70, des jeunes toxicomanes, ça n'existe pas. Les toxicomanes des années 60 sont plutôt des artistes, des gens qui ont travaillé dans les colonies, comme on disait autrefois, et qui ont pris là-bas des habitudes d'opium ou d'héroïne ou autre, et qui vont donc s'approvisionner plutôt du côté des médecins, du côté des pharmaciens, etc. Bon. Par contre, dans la contre-culture américaine, dans les années 60, émerge donc un goût pour des états modifiés de conscience. Ça commence avec la Beat Generation, avec la marijuana. Donc là, quand vous lisez Kerouac ou tous ces auteurs, ils passent leur temps à fumer, etc. Bon, mais là, on peut dire qu'on n'est pas vraiment dans la toxicomanie, mais plutôt dans des formes de contre-culture, oui. Et puis, par contre, progressivement, dans les campus américains notamment, le goût pour le LSD va se développer et va entraîner le goût pour une recherche beaucoup plus large d'états modifiés de conscience. Et pour la première fois, donc aux États-Unis, dans ces années 70, va apparaître la toxicomanie, avec également toute la violence qui va avec. Alors j'aime bien citer, comme je suis un grand cinéphile, j'aime bien citer à cet égard un grand film de Jerry Schatzberg, qui est le cinéaste qui a tourné L'Épouvantail, hein, l'un des films qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Mais dans ce film qui s'appelle Panique à Needle Park, déjà dès le titre, vous avez tout. Un needle, c'est les aiguilles. C'était la transformation des grands parcs américains de l'époque en lieu de rassemblement de tous les toxicomanes qui venaient chercher leur dose. Et donc, c'était l'époque où on trouvait des seringues absolument partout. Et dans ce film, Panique à Needle Park, vous avez un tout jeune Al Pacino. Il doit avoir une vingtaine d'années. Par contre, la comédienne a disparu de l'histoire du cinéma, mais le film de Chatsberg montre un jeune couple qui s'aime, qui tout va bien pour eux, ils ont du boulot, ils gagnent bien leur vie, ils sont heureux, puis ils commencent à tâter de la drogue, et puis ils sont pris progressivement dans une espèce, dans la contre-culture aussi qui régnait aux États-Unis à cette époque-là, et on voit progressivement la dégradation du couple, et puis jusqu'à la tragédie finale. Bon, je vous recommande ce film que vous trouverez facilement en DVD pour quelques euros, Panique à Needle Park, et aussi un très très bel, très très beau film, très très émouvant. Donc dans ces années 70, c'est l'émergence de la toxicomanie qui va très vite sauter l'Atlantique également, qui va gagner la société française mais les sociétés européennes globalement. C'est l'époque d'ailleurs où Claude Olivenstein va fonder la clinique de Marmottan, où il va accueillir tous ces jeunes qui sont à l'époque plutôt dans la contre-culture. C'est plutôt la mouvance hippie encore, donc avec l'utopie d'un autre monde possible et l'utopie d'un partage, de la solidarité, etc. Mais très vite aussi, Claude Olivenstein va déchanter, va découvrir que la toxicomanie prend des formes de plus en plus dures, de plus en plus agressives, de plus en plus délinquantes également, comme aux États-Unis exactement. Et à ce moment-là, Olivenstein va se sentir un peu paumé. C'est là où il va prendre un congé sabbatique et où il va écrire son livre « La drogue ou la vie », qui est vraiment une espèce de photographie de la France des années 80, extrêmement dure. Parce que Olivenstein constate d'une part que la toxicomanie a complètement changé de nature, mais il constate également que dans les quartiers de grands ensembles, par exemple, on rencontre de plus en plus de petits gamins qui sniffent de l'essence, qui sniffent de la colle, etc. Et Olivenstein se demande à l'époque où va la société française. Mais ça vaudrait pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour l'Espagne, c'est pas... Ça touche l'Europe tout entière, donc une sorte de décrochage que je me rappelle avoir vécu moi-même d'ailleurs quand j'étais étudiant, j'étais tout jeune, mais je me rappelle d'un certain nombre d'amis à la fac qui goûtaient régulièrement des drogues et puis qu'on a vu progressivement devenir de plus en plus infréquentables d'une certaine manière parce qu'ils piquaient tout ce qu'ils pouvaient piquer à leur entour. Ils devenaient absolument, tout ce qu'ils disaient devenait sujet à caution parce que tout était magouille pour récupérer le maximum d'argent, le maximum, voilà. Et un certain nombre d'entre eux, donc ça, j'en ai parlé un petit peu dans la première page de mon livre « Passion du risque », un certain nombre d'entre eux ne sont jamais revenus de leur overdose ou de leur départ pour Katmandou, mais d'un départ sans retour cette fois. Donc une radicalisation de la toxicomanie. Et aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas sorti encore de ces questions-là, en dépit des politiques de réduction du risque, etc., qui sont d'ailleurs très, très pertinentes d'un point de vue sociologique. Mais en même temps, il y a cet appel d'autres choses qui fait que la drogue, les différentes formes de drogue, continuent à exercer une attraction majeure pour des jeunes mal dans leur peau. Autre phénomène complètement récent dans l'histoire de nos sociétés, ce sont les tueries scolaires. Donc tuerie scolaire, ça veut dire un adolescent qui tue d'autres adolescents. Ça n'a rien à voir avec la tuerie qui s'est passée hier encore, mais il y en a quasiment tous les jours aux États-Unis, où c'est un adulte qui prend des armes et puis qui tue des gens dans les centres commerciaux ou ailleurs. Ça, c'est d'une banalité tragique, mais ça dure depuis le début du XXe siècle aux États-Unis. Par contre, qu'un adolescent, donc 14, 15, 16 ans, 17 ans, tue ses copains, ses profs, dans des collèges, dans des lycées, dans des universités, eh bien, on n'avait jamais vu ça aux États-Unis avant 92-93. Les premières tueries scolaires datent de ce moment-là, et elles vont faire tache d'huile, comme d'ailleurs la toxicomanie, ça va faire tache d'huile dans le monde entier, puisque aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun pays dans le monde qui n'a été épargné par les tueries scolaires. Il y en a eu au Japon. Je cite souvent d'ailleurs l'exemple du Brésil, que je connais bien, qu'il y a eu même une tuerie scolaire à Rio. On pourrait penser que c'est vraiment la dernière ville au monde où ce genre de choses puisse arriver, mais non, il y a un ado qui a tué aussi pas mal de ses copains dans un lycée carioca. Et puis, d'ailleurs, il y a 2 ans, j'étais aussi au Brésil, c'était en mars dans ces eaux-là, et il y a eu dans une petite ville du sud, il y a eu aussi une tuerie avec une dizaine d'étudiants qui ont été tués par d'autres jeunes qui avaient été d'ailleurs exclus du lycée. On est toujours d'ailleurs souvent dans le thème de la vengeance, hein, de ce genre de truc qui revient dans le djihadisme de manière aussi assez terrifiante, se venger de la société, se venger des autres, etc. Bon. Columbine, je vous rappelle, c'est 97, hein, qui va donner une sorte de modèle que beaucoup d'autres tueurs vont reprendre, la manière de s'habiller, la manière de porter les sacs à dos, les armes, etc. Je crois malheureusement que Gus Van Sant a joué un rôle pas très heureux en la matière, de mon point de vue. C'est un très bon cinéaste, mais dans son film Elephant, il esthétise à outrance cette mise à mort. Et à la fois, il y a des bonnes choses d'un point de vue sociologique, il y a des bonnes choses dans le film, ne serait-ce que l'ouverture, hein, où, si vous vous rappelez de l'ouverture du film, on voit un père complètement ivre qui veut absolument emmener son gamin adolescent à l'école et qui louvoie comme ça sur la route et qui dit « mais je contrôle bon, ». C'est une manière aussi, mais c'est classique dans le cinéma américain, de dénoncer l'imposture entre guillemets du père, le fait que les pères sont complètement absents et indifférents. C'était déjà le thème de Nicolas Ray dans « La fureur de vivre ». Mais ça court comme un fil rouge dans l'histoire et dans la littérature aussi du cinéma américain. Donc les tueries scolaires sont très récentes dans notre histoire aussi. Le retrait, ce que j'ai appelé dans mon livre la disparition de soi, mais je prends plein d'autres exemples, mais là en tous les cas le phénomène des hikikomori par exemple est absolument emblématique de la disparition de soi. Là il fallait attendre qu'Internet émerge. Ce n'était pas possible avant, hein, de manière évidente. C'est-à-dire, les hikikomori, ce sont des jeunes qui s'enferment dans leur chambre et qui ne veulent plus en sortir, qui refusent de voir leurs parents ou leurs frères, leurs sœurs, leurs copains, etc. Et qui vont en revanche être en contact, enfin pas en contact justement, mais en dialogue avec le monde entier via les réseaux sociaux. Donc ce sont des espèces de moines post-modernes qui sont dans le refus du corps. Ils sont très emblématiques du post-moderne. Hein. Ils sont dans le refus du corps, du contact, dans le refus de la voix également, dans le refus du visage, dans le refus de la relation. Et pour eux, les réseaux sociaux, c'est tout le monde. Quoi. C'est le tout du monde. Mais en même temps, dans le refus, évidemment, du monde réel, concret, parce que ce sont des jeunes qui se sentent meurtris par le monde extérieur et qui ne veulent pas s'y exposer. Donc, c'est une espèce de réclusion volontaire, hein, et qui peut durer des années, et qui touche de façon fulgurante, d'ailleurs, la société japonaise, puisqu'on évalue à peu près à 250 000 hein, le nombre de jeunes japonais qui sont dans des formes plus ou moins intenses de réclusion. Je crois que quand ils disent 250 000, ça englobe des formes plus provisoires de quelques jours ou de quelques semaines, mais aussi des formes qui peuvent durer des années, et donc d'un refus du social, d'un refus de l'école, etc. Mais qu'on rencontre, c'est plus seulement aujourd'hui un phénomène japonais, là aussi la contagion des symptômes, la contagion du sens a opéré son travail, et on rencontre aujourd'hui, enfin, les cliniciens, que je rencontre très souvent, évoquent de plus en plus de cas de jeunes Français, de jeunes Italiens, de jeunes Espagnols ou Brésiliens ou Chiliens qui rentrent dans cette espèce de grève, hein, j'en parle souvent de cette manière-là, une espèce de grève de la vie quotidienne, un refus de l'autre et qui pose évidemment beaucoup de problèmes de santé publique et à mon avis qui en posera de plus en plus parce que ça me paraît une voie royale aussi pour beaucoup de jeunes qui s'en mêlent dans leur peau. Autre phénomène très récent aussi dans nos sociétés, ce sont les scarifications, les attaques au corps. Elles n'existaient quasiment pas dans le courant des années 90, sauf pour des populations psychotiques ou autistes. Mais pour des adolescentes ordinaires ou des garçons ordinaires, donc qui ne souffrent d'aucune pathologie médicale ou psychiatrique, là, l'émergence des scarifications, c'est la fin des années 90. Et ça va commencer à exploser au début des années 2000, et puis plus ça va, plus ça prend une ampleur grandissante aujourd'hui. Donc les scarifications, donc se faire mal, mais pour avoir moins mal, hein, donc se faire mal à son corps, entre guillemets, pour avoir moins mal dans sa vie, ce sont aussi des formes de ritualisation individuelle, personnelle, pour conjurer un mal de vivre qui écrase. C'est une espèce d'échappée belle qui permet de relancer la vie pour ces jeunes en pleine détresse personnelle. L'autre phénomène très récent aussi dans nos sociétés, c'est l'alcoolisation extrême. Pas l'alcoolisation classique, l'alcoolisation extrême, c'est-à-dire boire pour le coma. Autre forme, vous voyez, de disparition de soi. Là, après, quand vous êtes dans un coma éthylique, vous êtes là, mais il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'il y a un corps qui gît. Voilà. Et aujourd'hui, le phénomène est apparu en France au début des années 2000. Il était plus ancien en Grande-Bretagne, par exemple. Mais il est apparu en France dans les années 2000. Et aujourd'hui, il touche des gamins de 10, 12, 14 ans, etc. Il touche des plus âgés aussi, puisque, par exemple, j'imagine que vous le savez bien, même si j'espère que vous n'en êtes pas des protagonistes, mais quand on organise des fêtes ou des soirées dans nos universités désormais, les secouristes, les pompiers prévoient systématiquement des lits pour le coma éthylique parce qu'ils savent qu'il y aura immanquablement un certain nombre des étudiants, donc on pourrait penser pourtant des hommes ou des femmes relativement privilégiés au regard du reste de la société, mais qu'il y aura bon nombre qui vont profiter entre guillemets de l'occasion pour disparaître le plus vite possible. Paradoxe donc de venir à une fête pour la quitter le plus vite possible, mais en se donnant l'autorisation de boire à outrance. Donc là, c'est l'alcoolisation extrême. Et puis la dernière conduite à risque, rappelez-vous que j'ai mis des guillemets à conduite à risque, mais la dernière conduite à risque, c'est l'émergence du djihadisme qui, en l'espace de quelques mois, donc, a fait tache d'huile sur l'ensemble de nos sociétés. Il y a eu des Québécois, il y a eu des Latino-Américains aussi. Il y a eu des gens vraiment de partout, et beaucoup de nos jeunes qui ont grandi dans des milieux athées ou dans des milieux catholiques et qui se sont soudain convertis à une religion dont ils ignoraient le moindre mot, qu'ils ont pêché sur le net avec des espèces de caricatures de ce qu'est l'islam et notamment l'islam radical. Et donc, ils se sont empressés de partir en Syrie ou en Irak, mais aussi, pour un certain nombre d'entre eux, de promouvoir un certain nombre d'attentats à Paris, à Bruxelles ou ailleurs. Manière aussi de prendre, comme le discours de la vengeance revient en permanence, de la fausse victimisation, si on peut dire les choses comme ça. Bon, ça, il y avait une sorte de matrice favorable à ces émergences. Voilà, donc vous voyez que les travailleurs sociaux, finalement, travaillent sur du nouveau, hein, sur l'émergence du nouveau, et absolument pas sur de l'ancien. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument contrer cette idée que, par exemple, dans la France des années 30, 40, tout le monde était tous les jeunes étaient malheureux. C'est totalement faux, ça n'aurait strictement aucun sens. Je ne veux pas dire que tout le monde était heureux, c'est pas ça du tout. Mais il y avait encore un cadre social, il y avait des formes de prévention sociale dans le sens où la famille était très présente, le quartier était présent. Il y avait un sentiment d'appartenance à une ville, à une région, à un village. Et même à un pays, il y avait aussi un horizon devant soi qui n'était pas fermé, il y avait l'impression d'avoir le monde devant soi. Il y avait tout un tas de formes de prévention sociale qui permettaient de cadrer un mal de vivre qui aurait été trop aigu. Donc quand, par exemple, un auteur comme Paul Nizan, dans les années 20, dit « J'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'était le plus bel âge de la vie », il ne faut absolument pas généraliser à outrance. Paul Nizan, c'est aussi une histoire de vie particulière d'un homme mal dans sa peau, qui vit une espèce de névrose de classe, comme dirait Vincent de Goljac, et puis qui est dans une aspiration vers autre chose, qui va l'amener à s'engager vers le communisme. Mais par contre, la France des années 20, je crois que tout le monde trouve à peu près sa place. Même avec. Alors, ça ne veut pas dire non plus que dans les familles, il n'y a pas le pater familias, il n'y a pas des violences contre les femmes, une domination masculine terrifiante, etc. Mais là, je parle de la jeunesse. Je ne dis pas non plus que beaucoup de jeunes n'étaient pas frappés par leurs parents. C'est banal aussi. Passé ma jeunesse, moi qui étais un très mauvais élève, j'ai pris des tonnes de coups de règle sur les doigts, j'ai passé des heures devant les poils chauds, brûlants de l'hiver, et puis à faire des cours de récréation avec une pancarte accrochée dans le dos, comme quoi j'étais vraiment un personnage infréquentable, indiscipliné, etc. Bon, vous voyez, ça m'a nullement traumatisé, au contraire. Mais c'était effectivement des époques où il y avait une certaine dureté envers les enfants. Mais par contre, il y avait, en termes de souffrance adolescente, il n'y a pas de chiffres qui nous montreraient une surreprésentation du suicide, ou des tentatives de suicide, ou je ne sais pas. Il y a évidemment, après-guerre, il y a beaucoup de délinquance juvénile, mais c'est une France qui se reconstruit, il y a énormément de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. On trouve ça en Italie, on trouve ça en Allemagne, on trouve ça un peu partout, à l'époque en Europe. Hein. Voilà, mais là, on est dans la banalité des choses, et puis très vite, la société française, italienne, allemande, etc., vont se reconstruire et vont finalement accorder une place à leurs jeunes. Mais quand vous observez donc les chiffres de la santé publique, vous voyez tout d'un coup que ça commence à monter dans ces années 80, et ça ne cesse de monter. Ça ne cesse de monter, et on peut être très... Enfin, en tous les cas, j'écris pas forcément ça dans mes livres ou mes articles, mais je peux le dire oralement. Moi, je suis assez inquiet pour l'avenir d'une part de la jeunesse, de nos sociétés dans leur ensemble d'ailleurs, mais c'est encore un autre sujet. Parce que le mal de vivre adolescent soulève la question de la transmission, par exemple, de qu'est-ce qu'on transmet comme valeur dans le monde de l'ultralibéralisme qui est le nôtre aujourd'hui, dans ce monde du cynisme, de la compétition, où on nous dit en permanence qu'il ne faut pas avoir peur d'écraser les autres pour prendre leur place, etc. Donc, je pense que ce n'est pas facile de grandir dans ce contexte-là, et puis dans un contexte également où il n'y a plus d'orientation, on ne sait plus où on va, nos sociétés ne savent plus du tout où elles vont. Donc c'est difficile de se projeter dans le temps et de se projeter dans le temps avec un sentiment de confiance. Je rappelle les grands textes de Simmel qui montrent combien la confiance est absolument nécessaire au lien social pour se sentir porté, se sentir en lien avec les autres. Mais là, on est de moins en moins ensemble, on est de plus en plus côte à côte et même en rivalité avec les gens qui nous sont les plus proches, avec nos meilleurs amis pour un poste, pour un avancement de carrière, etc. Bon, on vit dans une société assez fascinante où on arrive à transformer les meilleurs amis en meilleurs ennemis d'une certaine manière, ce qui n'était absolument pas le cas quand même il y a encore quelques décennies. Voilà, donc ce qui a amené l'émergence de ces conduites à risque aussi, c'est l'individualisation grandissante du lien social, le fait que chacun de nous devient le maître d'œuvre des significations et des valeurs avec lesquelles il va vivre, dans un contexte social également de plus en plus prégnant quand même. Mais comme je suis un interactionniste, évidemment, je considère que nous sommes les acteurs de nos vies. Ce qui importe, ce n'est pas la culture, ce n'est pas la société, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Ce qui importe, ce n'est pas quelles sont les influences qui pèsent sur nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces influences qui pèsent sur nous. C'est-à-dire, pour moi, nous demeurons jusqu'à la fin, même dans le pire parfois, nous demeurons les artisans de nos existences. Mais dans ce contexte d'individualisation du lien social vient par contre fracturer les anciennes solidarités, les anciennes amitiés, les anciens sentiments d'appartenance. En même temps, dans ces années 90, la famille a été profondément bouleversée. De moins en moins d'enfants grandissent avec leurs parents de naissance, entre guillemets. Sur le plan statistique, il y a une surreprésentation dans les conduites à risque des enfants qui ont grandi dans des familles recomposées ou dans des familles monoparentales. Donc, il ne s'agit pas de défendre la famille, ce serait complètement débile, mais de pointer qu'il y a quand même des structures sociales qui sont plus favorables pour grandir que d'autres, et le fait de grandir dans une famille recomposée où il y a des tensions majeures entre son père et sa mère, par exemple, et parfois des tensions majeures entre le beau-père et la belle-mère, ce qui est aussi extrêmement fréquent, c'est pas très propice pour grandir de manière heureuse. Et quant aux familles monoparentales, ce sont quasiment toujours des femmes qui doivent assumer toutes les responsabilités parce que le mari est parti et ne paye pas sa pension alimentaire ou ne vient plus voir ses enfants et autres. Donc il y a un contexte également assez minable de ce côté-là qui fait que ce sont des femmes qui se sacrifient, qui sont mal dans leur peau, mal dans leur vie, qui vont traîner un sentiment de malaise qu'elles risquent aussi de transmettre à leurs enfants, mais elles ne peuvent pas être présentes pour s'occuper de tous leurs enfants. Elles bossent la plupart du temps, souvent d'ailleurs dans des métiers prenants, du style aide-soignante ou autre, ou aide-ménagère, ou, etc. Donc elles n'ont pas les moyens d'être là dans la présence éducative, sociale, affective auprès de leurs enfants. Et très souvent, c'est la rue qui fait l'éducation des enfants. Et là, les familles monoparentales payent un très lourd tribut aux conduites à risque, évidemment. Et puis aussi, dans ces années 90, on a vu disparaître un certain nombre de garde-fous qui fonctionnaient encore jusque dans les années 80. Donc, tout simplement, en continuant la sociologie de la famille, on est passé des familles grandes. Moi, dans mon quartier, quand j'étais petit au Mans, dans toutes les familles, il y avait au moins 3-4 gamins. Des fois, il y en avait 5 ou 6. Rares étaient les familles où il y en avait 2. C'était presque des gens qui étaient pointés du doigt. Mais ça voulait dire aussi, ces fratries nombreuses, que d'une part, la transmission pouvait fonctionner à tout moment. C'est-à-dire que les aînés pouvaient voir leur mère s'occuper du nourrisson qui venait de naître. Et donc, il y avait un apprentissage informel qui se jouait. D'autre part, évidemment, il y avait un sentiment d'appartenance, de solidarité, de protection. On n'était pas seul devant son père ou devant ses parents. On était ensemble. Il pourrait y avoir, bien sûr, les rivalités entre frères et sœurs sont classiques. Ça commence dans la Bible, je sais bien. Je ne veux pas non plus en faire un modèle de sociabilité, mais en tous les cas, il y avait un sentiment d'être ensemble. Aujourd'hui, quand on est un enfant programmé quasiment et unique, il est clair que ça change complètement la manière dont les parents, d'ailleurs, ont des relations avec leurs enfants. Et c'est aussi. Et indépendamment de ça, dans ces années 80, la famille élargie est toujours présente. C'est-à-dire, on grandissait dans des familles où les grands-parents n'étaient pas loin, les oncles, les tantes, etc. C'est Bachelard, d'ailleurs, qui disait que quand on ne s'entendait pas bien avec son père, de toute façon, il y avait forcément un grand-père qui était un merveilleux raconteur d'histoires et qui vous réconciliait avec la vie. Aujourd'hui, dans le contexte de l'individualisation du lien social et donc de l'éparpillement des familles quasiment dans le monde entier, l'enfant est un peu prisonnier de la famille comme on dit, pas cellule, nucléaire, pardon, de la famille nucléaire, pour le meilleur ou pour le pire. Ça se passe très très bien pour la majorité évidemment des enfants, mais pour un certain nombre d'entre eux, ça ne se passe pas très bien. Et donc, notamment ceux qui sont dans les conduites à risque, qui n'ont pas trouvé quelque part des adultes qui auraient pu leur donner le goût de grandir, pas dans leur famille, pas dans leur entourage non plus. Et puis, l'autre chose que je voulais dire, oui, là, c'est les études de François Dubé et autres, c'est la disparition des militantismes qui permettaient d'ouvrir le temps, quoi, d'ouvrir l'avenir, de se dire peut-être on vit dans un monde qui n'est pas le plus fréquentable possible, mais en tous les cas, un jour, on changera la vie. Voilà, moi qui étais très très mal dans ma peau quand j'étais ado, je me souviens très bien de tout ça, de tous les rêves qu'on pouvait avoir, et à telle enseigne que je me rappelle encore me revendiquant du côté Rimbaud, hein, changer la vie, plutôt que du côté Marx, changer le monde. Mais c'était des idées que nous partagions quasiment tous, hein, étudiants sociaux à l'époque. On voulait changer le monde, on voulait changer la vie, et il y avait le sentiment qu'on pouvait le faire, et que c'était. Et puis progressivement, donc le monde est arrivé à ce discrédit du communisme, puis ce discrédit du socialisme, puis ce discrédit de la gauche, et puis aujourd'hui donc l'apparition d'innombrables formes d'extrémisme de droite où le racisme, l'antisémitisme se donnent libre cours, comme on le voit au Brésil, aux États-Unis, en Hongrie, en Pologne, comme on voit d'autres grands pays, même l'Italie, donc être tenté par ce genre d'idéologie. C'est aussi ça qui m'inquiète énormément pour ma part, pour l'avenir. Il n'y a plus le sentiment donc d'un avenir qu'on puisse construire ensemble, dans la solidarité et l'amitié. Il y a plutôt donc un monde cynique et qui est centré autour de l'argent. Deux points également importants, également anthropologiques autour des conduites, et qui répondent un peu à cette question: pourquoi y a-t-il dans cet âge-là de la vie, entre 12, 13, 14 ans et jusque vers 20 ans et quelques, pourquoi est-ce qu'il y a une telle flambée des conduites à risque? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? puisque l'immense majorité des jeunes en conduite à risque vont très vite s'intégrer socialement et puis, à de rares exceptions près, vont oublier ce qu'ils ont vécu de souffrance dans leur enfance, ou, enfin dans leur adolescence. Et je crois au contraire que ça les aura aidés à grandir et que c'est d'ailleurs chez eux que se recrute le maximum de travailleurs sociaux, d'infirmières, de psychologues, de médecins, etc., quand ils ont une volonté humaniste, hein, également un sentiment de responsabilité, une volonté de réparer des choses qu'ils ont vécues un peu douloureusement dans leur enfance. Donc, deux points anthropologiques profondément, de mon point de vue, qui permettent de comprendre pourquoi il y a ce mal de vivre si fréquent à cet âge-là de la vie. D'une part, évidemment, c'est parce que c'est l'âge où on répond à la question du sens de sa vie, ou alors on est plutôt dans l'interrogation. Est-ce que ma vie vaut la peine vraiment que je la vive? Est-ce que je ne suis pas nul? Est-ce que je ne suis pas insignifiant? Est-ce que je vaut vraiment la peine de vivre? Bon, ça, c'est vraiment la question adolescente par excellence. D'où le fait que pendant longtemps, les adolescents lisaient énormément Camus. Je ne sais pas si aujourd'hui beaucoup savent qui est Camus, mais en tous les cas, c'était pendant longtemps, on lisait tous Camus, l'absurde, le mythe de Sisyphe, etc. Le monde est certainement absurde, mais comment s'en sortir? Voilà. Et donc, on cherchait des réponses chez un certain nombre de ces auteurs. Mais bon, ça, c'est pas vraiment de ça dont je voulais parler. C'est plutôt la vulnérabilité à la souffrance qui caractérise cet âge-là de la vie. Quand on est un enfant ou quand on est un adolescent, on n'a pas encore une expérience de vie suffisante pour pouvoir mettre à distance, pour pouvoir relativiser les moments difficiles qu'on vit. C'est-à-dire, on prend de plein fouet le sentiment de son indignité, le sentiment d'être nul, ou une injustice, par exemple. Là où l'adulte relativisera, se dira, par exemple, après un licenciement, après une séparation, après un deuil, bien sûr, ça va faire très mal à l'adulte, mais il sait qu'il n'est pas le premier au monde à qui ce genre d'événement est arrivé. Généralement, il connaît d'autres personnes dans son entourage qui ont vécu les mêmes choses, et puis, antérieurement, il a pu vivre d'autres moments assez durs. Donc l'adulte, en principe, dispose des ressources de sens qui lui permettent d'amortir l'adversité qu'il traverse. L'adolescent, non, parce qu'il il découvre peu à peu le monde avec une expérience donc assez vierge, encore plus l'enfance. D'ailleurs, puisque l'enfant est vraiment là, complètement prisonnier d'une certaine manière des événements qui se déroulent autour de lui. Et d'ailleurs, si on faisait un sondage aujourd'hui, même chez vous qui êtes très jeune, si je vous disais parle-moi de ton enfance quand tu avais 5-6 ans, parle-moi des moments durs que tu as vécu. Et vous commenceriez à raconter une injustice que vous avez vécue de la part de votre mère, de votre père, ou un cadeau qu'on a oublié de vous faire et autres. Et tout d'un coup, vous auriez les larmes aux yeux et vous me diriez « Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai les larmes aux yeux, c'est ridicule, pourtant c'était rien cette histoire. » Mais ça prouve que 20 ans après, ou parfois 50 ans après, c'était pas rien, parce qu'on a vécu de manière tragique ce moment d'oubli de nos parents ou d'un proche. On a vécu une injustice vraiment de plein fouet. Alors que plus tard, on peut dire qu'on malheureusement devient assez rodé à l'encontre des injustices ou des adversités qu'on peut rencontrer. Mais l'adolescent ou l'enfant n'a pas encore trop vécu ça. Donc un enfant, par exemple, qui voit ses parents se déchirer devant lui, c'est vraiment un tremblement de monde. Il a 5 ou 6 ans, il voit son père et sa mère qui s'engueulent tous les jours, il se demande où il va dormir ce soir. Il se demande s'il va devoir se séparer de sa mère ou de son père, et voilà. C'est tout son univers qui s'écroule, parce que son univers, il est uniquement construit autour de son père et de sa mère. Et l'adolescent élargit à peine encore son univers. Donc l'adolescent est extrêmement vulnérable à la souffrance, voilà. Et d'autant plus vulnérable que, évidemment, aucun adolescent n'a envie d'aller voir un psy pour raconter ses problèmes. C'est classique, un adulte qui est mal dans sa peau n'a pas peur d'aller en discuter, ne serait-ce qu'avec son médecin généraliste ou prendre rendez-vous avec un psychologue, un hypnothérapeute ou je ne sais quoi. Ça fait partie un peu des routines de l'âge d'homme ou de femme. En revanche, traîner un ado devant un psy, c'est vraiment assez compliqué. À telle enseigne d'ailleurs qu'on dit dans le milieu que quand on a emmené un adolescent à la maison des ados, on a gagné, parce que ça prouve qu'il est prêt à faire un travail sur lui et que rien n'est perdu encore. mais c'est très compliqué. Donc ça veut dire que le jeune reste à ruminer son mal de vivre, il n'a pas envie du tout d'en parler aux autres. Donc ça, c'est une source de vulnérabilité qui est vraiment propre au fait de grandir, quoi. Donc c'est pour ça que je lui donne une connotation très anthropologique. Vulnérabilité à la souffrance. L'autre vulnérabilité, ce sont les représentations de la mort. Quand on est un enfant ou un adolescent, on n'a pas du tout une représentation de la mort comme d'un fait tragique, irréversible également. C'est un enfant, vous savez que c'est jusque vers 5 ans, 5-6 ans, quand vous dites à un enfant qu'il vient de perdre son grand-père ou sa grand-mère, vous croyez qu'il vous a compris, mais quelques jours plus tard, il vous dit « Mais maman, papa, quand est-ce qu'on va revoir grand-père? J'ai pas compris ce que tu m'as dit, etc. » Donc il nous faut très longtemps dans la vie pour intégrer cette notion de l'irréversibilité de la mort. Et d'ailleurs, l'acquiert-on un jour? Sans doute pas, puisque Sartre disait que chacun de nous se vit dans l'immortalité. Je crois que c'est bien ça qui nous permet aussi sans doute de tenir le coup, de ne pas penser qu'on va mourir à tout instant, évidemment. Donc la mort est une acquisition progressive qui est liée à l'éducation. Par contre, évidemment, un enfant, même s'il a 3 ans et qu'il grandit avec un frère ou une sœur qui est très gravement malade ou handicapé, ou trisomique ou autre, non, là c'est vraiment une prise de conscience extrêmement précoce de la précarité du monde, de la vulnérabilité, de tout ce qui peut à tout moment lui tomber dessus. Hein. Ou un enfant qui perd dans un accident son frère ou sa sœur ou un de ses proches, ou même un ami de son collège, de son école, là ce sont des espèces d'éducation extrêmement brutales qui prennent de plein fouet. Et le jeune, par identification, se dit « mais moi aussi, dans ce cas-là, je peux perdre la vie à tout instant ». Mais ce n'est pas du tout le cas, évidemment, de la plupart d'entre eux. Donc, les adolescents sont dans une représentation déréalisée de la mort. Déréalisée. Ils ne sont pas dans le déni, ni non plus dans la conscience du tranchant de la mort. Je préfère parler de déréalisation, parce que d'abord, vous le savez bien, j'imagine que vous avez été de ces adolescents-là. On connaît l'engouement des ados pour les films gore, du style Saw, du style Hostel, etc., avec la complaisance de regarder 10 fois de suite les moments où un type se tranche la main avec une scie ou on torture allègrement des prisonniers, etc. Et puis on sait également combien, malheureusement, les ados ont été réceptifs à la propagande de Daesh, hein, en regardant les vidéos de viols, de tortures, etc. Et c'est ça, ce qui paraît complètement dingue, c'est que c'est ça qui a attiré bon nombre d'entre eux vers la Syrie ou l'Irak. Hein. Alors, donc on pourrait dire, mais ce que je suis en train de dire est un peu absurde, puisque donc ils ont une surconscience de la mort du fait de leur fréquentation des sites de torture ou des films gore, etc. Mais non, parce qu'il y a une différence entre le virtuel et le réel, hein, je mets des guillemets dans les deux, il y a plein de passages évidemment, mais... dans sa vie concrète, quotidienne, le jeune grandit dans le sentiment que la mort, c'est forcément les autres. D'autant plus que l'augmentation de la longévité de la vie dans nos sociétés, enfin pour l'instant en tous les cas, peut-être que ça ne durera pas, mais pour l'instant, beaucoup de nos jeunes atteignent 20 ans, 30 ans sans avoir jamais vu mourir personne. Donc la mort, pour eux, c'est les autres, c'est les vieux. Ça ne peut absolument pas les toucher, ce qui contribue encore à la déréalisation. Moi, quand j'étais petit, j'ai vu mourir plusieurs des membres de ma famille parce qu'on mourait plus facilement à 70 ans, 80 ans, etc. Bon, aujourd'hui, non, c'est beaucoup moins le cas. Donc, ça contribue aussi à la déréalisation de la mort. Et puis également, il y a plein de choses qui jouent. Bon, ce n'est pas mon sujet, mais je me rappelle quand j'étais petit... Et peut-être l'une des très grandes leçons que m'a donnée ma mère quand j'étais petit, je me rappelle, je devais avoir 6-7 ans, et avec ma mère, nous descendions une rue au Mans, donc, et il y avait des grandes tentures noires encore à l'époque. Et ma mère nous a dit à mon frère et moi, quand vous passez devant ces tentures, ne faites jamais de bruit, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens en deuil, respectez-les, etc. Et donc c'était une prodigieuse leçon de sociologie d'une certaine manière, et puis également d'empathie, d'identification à l'autre, vous voyez. Aujourd'hui, la mort, on apprend que son voisin est mort quelques jours après, etc. Donc la mort est devenue invisible d'une certaine manière, sauf quand on ouvre sa télévision, ou qu'on écoute la radio, mais c'est une mort à distance. Hein. C'est comme la souffrance à distance de Boltanski, ça ne nous concerne pas trop. Mais en même temps, ça permet d'avoir quelques frissons, mais sans trop de conséquences. Donc il y a une déréalisation du rapport à la mort et à la précarité de la vie chez l'adolescent, qui amène donc à la multiplication aussi de ces conduites à risque, donc vulnérabilité à la souffrance, indifférence à la mort, c'est un cocktail assez redoutable. Et puis, je voulais dire autre chose qui m'a échappé en cours de route. Ça ne fait rien. Je continue mon propos. C'est la suraccidentalité dans le sport. Voilà. C'est aussi un phénomène bien connu aujourd'hui dans la santé publique. Les adolescents connaissent une suraccidentalité dans toutes les pratiques physiques et sportives. Donc, ils ont même dans les collèges, dans les lycées, dans les pratiques, dans les clubs, etc., ils ont beaucoup plus d'accidents que les autres, parce que d'abord, ils ont moins d'expérience, comme je vous disais tout à l'heure, de la conduite automobile, ils n'ont pas suffisamment d'expérience, de recul, donc ils se sentent un peu dans la toute-puissance, dans l'étoffe des héros. Qui contribue à neutraliser toute prudence, et ils le payent très cher avec énormément d'accidents, donc dans un contexte qu'on pourrait imaginer beaucoup plus ludique, beaucoup plus heureux. Notamment, c'est dans le monde de la mer, dans le monde de la montagne, surtout de la montagne, où beaucoup de jeunes prennent des risques énormes, mais ils sont convaincus qu'ils contrôlent, ils maîtrisent, comme disent, c'est une parole un peu standard aujourd'hui d'un ado à qui on dit « mets ton casque » ou « ne conduis pas ta moto » comme ça en le voyant entre les voitures et qui vont répondre tranquillement « je gère hein, ». C'est classique. Et ceux qui gèrent, on les retrouve évidemment en réanimation à l'hôpital. Il y en a des tonnes de gamins qui ont été renversés, qui se croyaient des virtuoses du deux roues. Mais qui, peut-être, eux, ils sont des virtuoses s'ils étaient tout seuls au monde. Le problème, c'est que quand on est sur la route, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours plein d'autres autour de soi. Et donc, on ne contrôle absolument rien de son environnement, évidemment. Suraccidentalité. Là, ce n'est pas forcément des ados mal dans leur peau. Ce sont des ados qui sont dans l'expérimentation, hein, qui cherchent à savoir jusqu'où ils peuvent aller trop loin, dans l'escalade, dans la plongée sous-marine, dans la résistance en traversant des lacs ou des estuaires ou je ne sais pas quoi, bon, mais qui vont le payer parfois un peu cher. Ou dans le VTT, dans les montagnes, par exemple, ne serait-ce que dans les Vosges ou ailleurs, ou dans le Jura, ils vont descendre à fond de cale ils vont se casser la gueule et ils vont le payer parfois de leur vie ou de handicap, d'hémiplégie, de tétraplégie ou autre. Mais au départ, ils étaient convaincus d'être les meilleurs du monde dans leur pratique. Le temps passe, donc, mais je vous donne quand même les grands axes pour qu'on puisse réfléchir dans le débat que nous allons avoir tout à l'heure. Donc ça, je ne développe pas, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a des conduites à risque différentes chez les garçons et les filles. Là, on retrouve bien la dimension du genre. Hein. C'est-à-dire, les garçons n'étant pas élevés de la même manière que les filles, on ne les retrouve pas dans les mêmes comportements. Donc les comportements à risque des filles, c'est plutôt les troubles alimentaires, c'est la... les plaintes somatiques, les filles qui ont mal, elles ont mal au ventre, elles ont mal à la tête, elles ont mal partout, mais les médecins ne voient rien. Donc moi, ma formulation, c'est qu'elles ont mal dans leur corps de femme, dans un monde où le machisme reprend énormément le dessus, le harcèlement, etc. Et quand toute la journée, on vous dit que vous n'êtes pas bonne ou que vous êtes bonne, ça ne donne pas spécialement envie de grandir et de devenir une femme. Donc je pense que c'est un peu mon analyse aussi anthropologique, c'est une espèce de protestation par corps, hein, de l'idée que c'est pas très jouable finalement d'être une femme dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de plaintes somatiques chez les filles qu'on ne voit pas du tout chez les garçons. C'est tout à fait typique. Il n'y a pas de raison que les filles soient... hormis sociologique, je veux dire, il n'y a pas de raison que les garçons ne soient pas dans les mêmes logiques. Donc les filles sont du côté des plaintes somatiques, des troubles alimentaires. Je suis en train d'en... Les scarifications, énormément dans les scarifications. Les garçons sont plutôt du côté de la violence, de la délinquance, de la toxicomanie, de l'alcoolisation. Et puis vous avez un certain nombre de... Évidemment, ce n'est pas des natures, hein, ce n'est pas des structures rigides. Il y a plein de passages. Vous allez rencontrer aussi des garçons anorexiques. Vous allez rencontrer des garçons qui se scarifient. Vous allez rencontrer des filles chefs de bande, enfin de gang de filles, les fameuses crapuleuses qu'analyse Stéphanie Ruby à Nancy, ou qu'une de mes anciennes doctorantes, Hakima Aït El-Kadhi, appelait les féminales. Les femmes qui sont du côté de l'animal, du mâle, qui sont sauvages, etc., et qui sont donc les squales, hein, du film. Donc on va trouver des contre-exemples, évidemment, mais qui ne sont quand même pas très nombreux, hein, globalement. Des filles, d'ailleurs, qui se défendent aussi contre la domination masculine de bon nombre de quartiers populaires et qui font de la surenchère sur le virilisme, mais pour ne pas être emmerdées non plus, hein, pour trouver leur place dans ce monde de vulnérabilité pour les femmes. Et puis les garçons donc, sont souvent du côté du virilisme aussi. Hein, c'est la vitesse sur la route. Le code de la route, je m'en balance. C'est pour les cons, les bouffons. Moi, je conduis merveilleusement bien, même à 150 à l'heure. C'est là où je contrôle le mieux. Parce que si tu me fais rouler à 90, là, je suis un mauvais conducteur. Quoi. On entend ça. Trop de fois, on a entendu ça, mais par contre, avec des verdicts assez tragiques, très très vite. Voilà, donc une dimension genrée des conduites à risque, comme si d'ailleurs, mais là c'est une métaphore un peu, mais comme si les filles dans les conduites à risque étaient à nouveau du côté du care, de l'éthique du care, hein, de l'éthique du soin, de la responsabilité, que je rencontre d'ailleurs dans beaucoup de mes recherches sur la douleur ou autre. Les filles sont toujours, effectivement, les filles ou les femmes se sentent souvent responsables des autres et vont rester jusqu'au bout dans l'accompagnement de quelqu'un qui est en grande difficulté, là où l'homme, généralement, va très vite quitter sa femme ou sa copine parce qu'elle lui pose des problèmes. Si elle a des problèmes de santé, des problèmes de douleur chronique, par exemple, ou autre, il ne veut pas trop s'embarrasser de ça. Mais donc, dans les conduites à risque, c'est un peu ça. Les filles se détruisent toutes seules, dans leur coin, elles ne font pas de vagues. Les garçons, par contre, vont brûler des voitures, vont agresser les flics, vont incendier les bibliothèques, etc., vont rendre un certain nombre de quartiers assez difficiles à vivre. Et donc, on va devoir mobiliser des moyens... les services publics, les municipalités, etc. Donc, on a dans toutes les municipalités quasiment, on essaie de conjurer, de contrôler, mais c'est plutôt une violence masculine que féminine, parce que les filles sont plutôt souvent les victimes, d'ailleurs, de tous ces trucs-là. Bon, un autre point qui m'est très cher, que j'ai toujours défendu, c'est que les conduites à risque sont des formes de résistance à la souffrance. Résistance à la souffrance, des manières de tenir le coup devant une adversité affective qui vient de la famille, par exemple de maltraitance familiale, d'abus sexuels, d'abandon du père, parfois plus rarement de la mère, ou un manque de disponibilité de leurs parents. C'est une manière donc de prendre sur soi et d'essayer de contrôler une souffrance qui est dans la vie. Donc c'est le recours au corps que j'évoquais tout à l'heure, qui permet un contrôle, qui permet une ritualisation, qui permet de tenir le coup. Bon, j'insiste pas, on y reviendra tout à l'heure. Je pose ça plutôt comme des questions. Un autre point également qui m'est cher depuis toujours, c'est que pour moi, ce ne sont absolument pas, on n'est pas dans la pathologie. Donc je suis absolument hostile à la médicalisation, encore plus à la psychiatrisation de ces jeunes, qui pour moi sont des jeunes bien ordinaires, mais par contre qui démarrent mal dans leur vie parce que simplement ils sont dans une famille ou dans un contexte qui les a meurtris, pas forcément familial, mais ne serait-ce que des abus sexuels ou des viols ou autres qui les a énormément abîmés. Et donc ils essaient de tenir le coup et donc on est moins dans le pathologique, sauf au sens étymologique, si vous utilisez pathologie au sens étymologique. Je vous rappelle que pathologie en grec, ça vient de pathos, la souffrance, et logie, donc des comportements, des logiques, disons. Donc effectivement, dans les conduites à risque, on est dans des logiques de souffrance. Et c'est ce que j'aime bien appeler des anthropologiques. On faisait un clin d'œil à Georges Balandier, évidemment, qui nous est très cher. Donc on est plutôt dans un monde d'anthropologique et je vous donne pour moi les quatre grandes figures anthropologiques qui surplombent les conduites à risque. L'ordalie, c'est le jeu symbolique avec la mort, c'est se mettre dans une situation dangereuse, non pas pour mourir, mais pour se mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que dans l'ordalie, il y a une possibilité de s'en sortir, une possibilité même non négligeable de s'en sortir. Donc ce n'est pas du tout une manière tortueuse d'essayer de se tuer. Au contraire, tentative de vivre, hein, comme je vous disais tout à l'heure. L'ordalie, c'est vraiment plutôt une tentative de vivre. C'est une manière donc de demander à la mort, à travers une mise à l'épreuve, de demander une réponse à la mort sur le sens de sa vie. Est-ce que ma vie vaut vraiment la peine que je la vive? Je me sens nul, j'ai l'impression que je n'ai aucun avenir, alors je me livre à une sorte de rite du destin, je demande à la mort une réponse, sachant d'ailleurs aussi que le lien social, jusqu'à présent, était impuissant à convaincre ces jeunes que leur vie valait la peine. Si le lien social avait fonctionné, ils se seraient sentis soutenus, portés par le lien social. Ce n'est pas le cas, ils se sentent dans le vide, et donc ils vont interroger une grande instance anthropologique, la mort, pour savoir si vivre pour eux a du sens. Et s'ils s'en sortent, évidemment, ben c'est que le verdict, le jugement de Dieu, entre guillemets, puisque « ordalie », ça vient d'un vieux mot français qui veut dire « jugement de Dieu », donc le jugement de Dieu a opéré en leur faveur et en plus ils se sentent forts d'avoir regardé la mort en face. Hein, dans un comportement ordalique, vous êtes face à la mort, vous avez le cran de regarder la mort en face et si vous vous en sortez, ça peut vous donner un sentiment de puissance intérieure, un sentiment de puissance, un sentiment de renaissance. Toute transgression, d'ailleurs, produit de la puissance. Hein. C'est quasiment un automatisme anthropologique. C'est pas un mot que j'emploierais dans un livre, c'est pas très beau. Mais il y a quelque chose qui va de pair avec la transgression, la production d'une puissance personnelle. Donc, voilà, j'ai été capable de tenter de me tuer ou de conduire ma voiture à 150 sur des petites routes de montagne. Je suis là, je suis vivant. C'est incroyable, mais je suis encore vivant. Donc c'est ce sentiment de surpuissance que peut éprouver un jeune dans un comportement ordalique. Mais ça, c'est une structure ordalique, parce que quelqu'un qui sort tout de suite de l'hôpital de Caen avec un diagnostic définitivement favorable de son cancer a aussi le sentiment que la vie s'ouvre à nouveau à lui, que on est exactement dans la même logique, hein, de le monde n'est pas perdu, finalement j'ai une seconde chance qui m'est donnée. Hein, l'ordalie, c'est quasiment chercher une seconde chance, là où la première fois, on a eu le sentiment d'avoir perdu. Donc l'ordalie est vraiment une grande figure anthropologique qui est présente dans toutes les conduites à risque. On la retrouve aussi, on retrouve une autre figure anthropologique, c'est celle du sacrifice. Alors le sacrifice, c'est accepter de perdre une part de soi, mais pour continuer à vivre. Prenons l'exemple des scarifications par exemple. Je me fais mal, donc je laisse une trace sur ma peau, je fais couler du sang, etc. Mais je me fais mal pour avoir moins mal. Je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal dans ma vie. Comme le disait un jour une adolescente, je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal à mon cœur. Formule absolument magnifique, qui dit tout en une phrase. Effectivement, la douleur physique, elle est paradoxalement plus supportable que certaines souffrances morales, quand on a été victime, par exemple, d'inceste ou de... Quand on doit tous les jours se confronter à des gens dont vous savez qu'ils vous méprisent et que c'est votre propre famille, ben voilà. Donc les scarifications, c'est une manière de payer le prix. Oui, je continue à jouer avec des mots à consonance anthropologique. Il faut payer le prix pour continuer à vivre. Le toxicomane va payer le prix pour continuer à vivre, l'anorexique, etc. On est dans une logique de sacrifice. On perd une part de soi, mais c'est pour sauver le tout. C'est pour sauver sa vie, pour ne pas disparaître, pour ne pas mourir. Une autre grande figure anthropologique, sur laquelle j'ai fait d'ailleurs un livre entier aussi, c'était « Disparaître de soi », parce que les jeunes générations n'en ont pas le monopole. La disparition de soi, cette tentation de disparaître de soi est incroyablement présente dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on est saturé d'être soi-même, on a souvent marre d'être soi-même, même quand tout va bien, apparemment. On est tous soumis à des contraintes d'évaluation, de rendement, d'efficacité. Le numérique nous transforme en personnages dépendants en permanence des sonneries, des mails, des textos, etc. Bon, donc on a envie d'échapper belle, hein, qui nous permette de reprendre son souffle. D'où d'ailleurs l'immense succès sociologique de la marche dans le monde entier aujourd'hui. Mais c'est un autre sujet. Là, c'est une manière de disparaître heureuse et paisible. Mais donc, pour revenir à la disparition de soi chez nos ados, ce que j'ai appelé la blancheur, là, c'est la volonté de ne plus être soi. Parce qu'être soi, c'est trop insupportable. Ils se sentent donc trop nuls, ils ne veulent plus penser à eux-mêmes. Toutes nos conduites à risque sont une recherche de disparition, de blancheur. Que ce soit, c'est la transe anorexique, c'est la recherche du coma dans l'alcoolisation extrême, c'est les états seconds dans la toxicomanie, c'est la transe de la vitesse. Vous pouvez comme ça décliner. C'est même le sentiment de l'intensité d'être qui saisit le jeune délinquant qui réussit un coup au moment où il attaque quelqu'un ou au moment où il réussit à se récupérer, à récupérer des biens ou des marchandises, c'est ce sentiment de délation, comme disent les psychanalystes, hein, de vivre un moment incroyablement intense, merveilleux. La violence peut être aussi évidemment une très grande source d'attraction, de jouissance, etc. Mais en même temps de disparition de soi, parce que pour ça que d'ailleurs les jeunes qui tuent, qui violent, qui agressent, vous disent après, c'est pas moi, j'aurais jamais cru que j'allais faire un truc comme ça, etc. Mais vous voyez cette espèce de plongée, on disparaît de soi, ou plutôt on passe d'une déclinaison de soi à une autre. On ne disparaît jamais de soi, évidemment, on reste toujours soi, même si on est Alzheimer ou n'importe quoi, on reste soi-même. Mais il y a des déclinaisons, des versions différentes de soi selon les circonstances. Et là, dans ces conduites à risque, c'est plus plongé dans une version de soi où on n'a plus de compte à rendre, un réel qui est beaucoup trop insupportable. Et puis, quatrième figure, c'est la dépendance. Donc, c'est le fait de dépendre d'un comportement, d'un objet, c'est-à-dire, au lieu de se poser tous les jours la question de sa liberté, je me lève le matin, quel va être mon emploi du temps? Je peux faire des milliers de choses. Si je suis toxicomane, je vais me dire, bon sang, aujourd'hui, d'ailleurs, je me serais peut-être levé à 1 h du matin. Si je suis toxicomane, mais je vais me dire où est-ce que je vais trouver ma dose aujourd'hui, où est mon dealer, combien il va me demander, est-ce que ma dope va être bonne ou pas. Donc il a tout ça, il a que ça en tête. Il ne se pose plus la question de ses libertés. Donc les comportements de dépendance font l'économie de la notion de liberté. C'est-à-dire que vous êtes sur des rails. L'anorexique, elle est sur des rails, elle est dans son contrôle métallique quasiment de la faim qui la taraude, qui l'obsède complètement, mais en permanence, elle repousse la faim. En même temps, elle va se donner des objectifs de courir plus vite, de nager plus loin, d'être plus brillante encore que tout le monde à l'école, etc. Tout son esprit est occupé par son... Par le fait de repousser la faim. Mais vous voyez, ça vous donne une occupation toute la journée et vous n'avez plus à penser à autre chose. Ce qui permet de brouiller la pensée sur les difficultés qu'on peut avoir à grandir, à trouver un sens à sa vie ou à se dépêtrer d'une famille avec laquelle on ne s'entend plus du tout. Voilà, donc ordalie, sacrifice, blancheur, dépendance. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie à mon livre qui s'appelle En souffrance, adolescence et entrée dans la vie, où j'analyse plus en détail, avec plein de verbatim. Je ne vous ai donné aucun verbatim. Évidemment, je ne sors pas tout ça de mon chapeau. Il y a aussi d'innombrables interviews en amont. Voilà, donc peut-être pour terminer là-dessus, oui, l'idée que les conduites à risque sont à mes yeux des ritualisations intimes, des rites de passage intimes, une institution de soi, ce serait plus mieux à dire, une institution de soi, donc dans le contexte de l'individualisation du sens qui caractérise nos sociétés contemporaines. Je dis ça parce que quasiment à chaque fois que je termine une conférence sur le sujet, on me dit « mais les conduites à risque ne sont-elles pas des rites de passage ?» Ça n'a aucun rapport, bien entendu, puisque les rites de passage, ce sont des formes de transmission. Hein, dans les sociétés traditionnelles, quand un rite d'initiation, un rite de passage a lieu, les aînés, les plus âgés du groupe, enseignent aux plus jeunes les grandes lois de la communauté, les danses sacrées, les chants sacrés, tout un tas de choses comme ça. Également, les rites de passage impliquent une société communautaire, une société du nous-autres, hein, une société dans laquelle on est en prise avec les ancêtres, avec ceux qui naissent, avec ceux qui sont présents. Également, dans les rites de passage, les parents sont présents, enfin, non seulement les parents, je veux dire, tout le monde est présent et assiste aux épreuves. Les jeunes savent ce qu'ils vont vivre. Ils connaissent déjà les différents jalons qui vont se succéder lors de leur rite de passage. Il y a la jubilation aussi, au terme du rite de passage, de devenir un homme, de devenir une femme. J'oublie sans doute un certain nombre d'éléments, mais tout ça, c'est absolument à l'opposé dans les conduites à risque. Hein, le jeune est tout seul, il a, ses parents sont, quand les parents, en tous les cas, aiment encore leurs enfants ou sont mobilisés par eux, ben, y a l'angoisse des parents, le risque de perdre leur fils ou leur fille. Le jeune ne sait absolument pas, en plus, quand on est dans les conduites à risque, on a l'impression que ça va durer éternellement. Donc, il n'y a pas de sortie d'une certaine manière. Il peut penser qu'il sera éternellement nul, que personne ne l'aimera jamais, etc. etc. Et puis, dans les conduites à risque, il y a le contrôle du collectif. Dans les rites de passage, il y a le contrôle du collectif qui sait jusqu'où aller trop loin dans la mise à l'épreuve du jeune. Donc, c'est quand même assez rare que des jeunes meurent en cours de route. Alors que là, dans les conduites à risque, il y a quand même bon nombre de nos jeunes qui meurent ou qui sont handicapés ou qui payent très cher ce passage dont ils n'ont pourtant pas été les responsables au départ. Voilà. Mais par contre, j'aime bien parler de rite intime de passage. Un rite intime de passage. C'est-à-dire, je me mets à l'épreuve, puisque j'ai l'impression de ne pas être accueilli par le monde qui m'environne, alors je me mets à l'épreuve pour savoir si finalement ma vie vaut la peine que je la vive. Donc je suis vraiment dans un rite d'institution de soi, mais seul. Mais en même temps, seul, et, alors pour, une objection que vous pourriez me faire, c'est pourquoi vous utilisez la notion de rite, qui est une notion forcément sociale, alors qu'on a affaire à des jeunes qui sont toujours tout seuls dans leur coin quand ils se scarifient, quand ils tentent de se tuer, etc. Le paradoxe, et c'est ça qui m'amène à parler quand même de rituel, c'est que dans le monde entier aujourd'hui, vous avez des millions, plutôt des dizaines de millions de jeunes qui sont absolument dans les mêmes comportements et qui vont et en plus qui vont agir souvent de manière extrêmement proche. On peut dire qu'une adolescente de Caen qui se scarifie peut-être utilise les mêmes scansions qu'une adolescente de Vancouver ou de Tokyo. Il y a très souvent l'écoute, par exemple, d'une musique métal, d'une musique dure, une musique du cri, une musique de la souffrance, une musique qui dit le désarroi de vivre. Il y a souvent une bougie, il y a souvent des choses dans la tête, un sentiment de faire une espèce de cérémonie occulte, etc. On peut dire ça exactement des tentatives de suicide, de la toxicomanie, enfin des toxicomanies. Il y a à la fois quelque chose d'incroyablement singulier et d'incroyablement collectif dans les conduites à risque. Donc cette idée de rite intime de passage me permet de relier dans une sorte de court-circuit conceptuel à la fois le particulier et le général. Donc je pense que les conduites à risque sont des formes de mise au monde par soi-même, des rites individuels de passage, des rites intimes de passage, des rites d'institution de soi. Voilà. Et donc, je dirais qu'on sort pratiquement toujours des conduites à risque. Il ne faut pas avoir une vision tragique et désespérée. Il y a un moment où le jeune va trouver du sens à sa vie à travers son premier boulot, à travers une relation amoureuse, à travers l'engagement dans un club sportif, à travers un voyage, à travers une rencontre. Un jour ou l'autre, il trouvera du sens à sa vie. Il y en a un certain nombre qui vont perdurer dans les mêmes comportements. Et là, ça pose par contre des problèmes majeurs. C'est le problème, par exemple, on va passer de l'alcoolisation à l'alcoolisme. Et là, on change de registre parce que dans l'alcoolisme, ça fait énormément de dégâts pour la famille, pour les enfants, quand ces personnes en ont. La violence, notamment la violence contre les femmes, des ados qui ont grandi dans la violence et qui vont rester dans la violence parce qu'ils n'ont pas trouvé non plus la butée qui les aura arrêtés et qui vont tuer leurs femmes, leurs copines ou les maltraiter ou maltraiter leurs enfants également, comme on le voit énormément aussi dans nos sociétés. Mais disons que c'est un reliquat, entre guillemets, d'adultes qui n'ont pas trouvé, qui n'ont pas ritualisé, justement, cette entrée dans l'âge d'homme ou de femme et qui continuent à s'agripper à des comportements terribles pour les autres qui les entourent. Voilà. Mais globalement, donc, dans mon sentiment, les conduites à risque ont toujours une issue positive et même, je dirais, une issue d'ouverture au monde. C'est-à-dire que je crois qu'on apprend énormément de cette souffrance-là dans l'enfance ou dans l'adolescence. L'essentiel, ce n'est pas de la vivre, c'est qu'est-ce qu'on en fait. On n'est jamais dans la fatalité de ce qu'on a vécu enfant, même quand ça a été des choses terribles. Et là, on pourrait citer beaucoup de grands écrivains ou de grands cinéastes qui ont eu des enfances absolument abominables, mais qui en ont fait quelque chose d'extrêmement puissant. Et puis d'autres, simplement, dont on ne saura jamais sans doute qu'ils ont vécu des enfances extrêmement maltraitées, mais qui vont faire de leur vie des choses merveilleuses, parce qu'ils savent justement ce qu'il ne faut jamais faire. Et ils ont une capacité d'empathie que beaucoup que les autres, généralement, n'ont pas. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je crois qu'on va faire une petite pause.
Merci. Merci.